Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les Dumbo de la critique. J'ai nommé Sophie Avon de Sud-Ouest, avec Charlotte Lipinska de Vanity Fair, avec Michel Simon, soi-même de Positif, et avec Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession, radieux comme un tout jeune marié.
Oui,
à qui on souhaite tous ici à la tribune et dans le public beaucoup de bonheur.
J'espère.
Cher Xavier,
j'avais voilà. J'avais déjà un peu consommé avant, donc je pars en terrain un peu connu, mais je suis très heureux.
C'était il y a 15 jours. On parle ce soir de Dumbo, de la lutte des classes, de Boy Erased, de C'est ça l'amour, synonyme, mon inconnu, Tel Aviv on Fire. Et dans le courrier de la semaine, nos auditeurs n'ont pas été sensibles, et moi je dois avouer que je les comprends, à Dernier Amour de Benoît Jacquot pour Bruno Romain, si j'en crois Larousse, purgatif se dit, d'une substance à l'action laxative puissante et rapide. C'est exactement l'effet que m'a fait le film de Benoît Jacquot. Arnaud Sanquer, que ce dernier amour est sec, froid, que la chair... Il est triste, Bruno Gouriou, c'est un film sans charme, sans sensualité. Le choix de Vincent Lindon est une catastrophe, c'est Casanova qu'on assassine. Avec sa perruque gris-blanc, il n'est plus Casanova, mais Papy Nova. Pour Christine Fink, c'est lent, aucune émotion, si ce n'est de la gêne pour Vincent Lindon, que je trouve beaucoup plus séduisant en maçon chez Stéphane Brisé. Avis très partagé également sur Ma vie avec John Donovan de Xavier Dolan pour Pierre Cusor. C'est un chef-d'œuvre, film d'une maturité magistrale, d'un metteur en scène de 30 ans, 2 heures de vrai cinéma pour Delphine Blanchard de La Roche-sur-Yon. Toute œuvre est autobiographique, Dolan fait ça magnifiquement, c'est un film ultra touchant. Ben au contraire, pour Antoine de Paris, Ma vie avec John Donovan est l'œuvre de quelqu'un qui n'a rien vécu pour raconter une histoire aussi mièvre et inintéressante. C'est prétentieux, moche et sans originalité. Blandine Giacomi juge que c'est un navet monumental. Moi qui suis une fan de Dolan, notamment la façon dont il sublime les femmes, eh bien je me suis demandé s'il ne s'était pas perdu à Hollywood. Reprends-toi, Xavier Dolan. Alice Ponce d'Aix en Provence, quelle déception de voir Dolan sombrer dans de tels travers, tire-larmes. Plus les Dolan passent, plus je suis déçu. Enfin, des avis négatifs que je ne partage pas du tout, pour le coup, à propos de celle que vous croyez de sa fine boue, Odile Roire, qui a adoré le roman de Camille Laurence, juge que ce devrait être un film violent, insoutenable, et c'est de l'eau de rose. Bruno L'Hôpital de Paris, j'ai eu le sentiment de voir une sorte de d'amour 2.0 pour les nuls, une vraie philosophie de comptoir, alors que ça aurait pu être un film magnifique. Isabelle Nourry parle d'un égo-cinéma qui arrive à grands pas après l'égo-littérature, complaisant et dans l'air du temps. Burke, Mona Hamzar, trouve celle que vous croyez lent, lourd, sans intérêt, même si Juliette Binoche est admirable. Là, pour le coup, c'est un peu excessif. Hein. Laetitia Carpinelli est radicale. C'est un des plus mauvais films que j'ai vu cette année. Seul Binoche sauve le film par sa capacité à jouer avec grâce et talent. Et pour le sauver, eh bien, le film de Nebout, ben, il y a François Semelet de Nogent-sur-Marne. Quel intelligent pas de deux entre la magnifique Binoche et la formidable Nicole Garcia. Comment Éric Nohoff peut-il qualifier ce film de balourd et d'épouvantable? Comme on disait autrefois dans les cours de récré, c'est celui qui dit qu'il est. Ainsi que Sandrine, allez-y pour les échanges entre Juliette Binoche et Nicole Garcia, toutes deux magistrales. Et encore désirable à plus de 50 ans. Voilà, et on commence, si vous le voulez bien, avec le nouveau film de Tim Burton, Dumbo, qui s'inscrit après le livre de la jungle, ou Mary Poppins dans la lignée des dessins animés Disney recyclés en film live. Et c'est avec Colin Farrell dans le rôle de Holt, l'ancien cavalier de cirque retour de la Grande Guerre. Alors il est veuf, il est manchot, père de deux enfants. Avec également la trapéziste française Eva Green, elle a dû prendre des cours, je pense. Danny DeVito dans le rôle du directeur du cirque Medici. Et notre légendaire éléphanto Dumbo, séparé de sa maman et vendu à l'horrible vente de mer. C'est Michael Keaton qui s'est fait une coupe argentée, un peu à la Le Harper. Bref, une fantaisie de 2h10 avec un Dumbo volant dont Tim Burton a réécrit l'histoire tout en restant fidèle à l'esprit Disney sur une musique de Danny Elfman. D'ailleurs tellement fidèle que moi j'ai eu le sentiment que Disney étouffait un peu le Burton que par ailleurs je trouvais plus brillant autrefois qu'aujourd'hui. Xavier?
Non, je ne suis absolument pas d'accord avec toi. C'est un film absolument magnifique. Moi, je retrouve le Burton que j'aime, mais que je n'ai jamais complètement perdu. Son film précédent était absolument aussi superbe. Et là, je lui dois de me réémerveiller à nouveau pour un film que j'adore, mais que je suis incapable de regarder. Je ne peux pas regarder Dumbo, je pleure au bout de 3 minutes. Effectivement, d'abord, il rend hommage au premier Dumbo en réinventant des personnages qu'on n'avait pas vus, qui sont celui de Colin Farrell et de ses deux enfants. Et puis, il y a une deuxième partie qui prouve quand même que Disney est prêt à tout pour faire de l'argent, mais tant mieux puisqu'il le confie à Tim Burton, qui est une attaque en règle des grands parcs d'attractions. Oh. Ah bah si, je suis désolé, qui mettent à mort le cirque itinérant, les petites troupes, les petites compagnies qui survivent difficilement. Il y a un côté hégémonique, et c'est vraiment ce qui est arrivé quand Disney a ouvert son premier Disneyland. Donc là, il y a quand même un peu, on se tire une balle dans le pied, jusqu'au bout, avec un parc d'attractions futuriste, superbe, avec une architecture métallique au sommet duquel trône l'ancien Batman de Tim Burton, Michael Keaton, méchant directeur de cet endroit, qui va virer les employés, parce que ça aussi, économiquement et socialement, le film dit le sort des employés de ces parcs d'attractions, au service d'une histoire absolument bouleversante, avec des personnages émouvants. On s'attendait à un grand film lyrique avec des grands mouvements de caméra pour justement épouser le mouvement de Dumbo. C'est un film très cassé, très mélancolique, très interrompu régulièrement dans sa narration. Je trouve que c'est du grand Tim Burton. J'ai pas fini, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. Et je trouve que c'est un immense nouveau Dumbo 2019. Voilà, allez-y, courez-y.
Charlotte Huppin du Bonnet.
Mais oui, parce que je trouve qu'il n'y avait pas mieux placé que Tim Burton, dont on sait vraiment l'amour pour les marginaux, pour les solitaires, le côté un peu monstrueux, fric, enfin la différence, quoi, l'ode à la différence. Et c'est vrai que on connaît aussi tout son amour du cirque, des saltimbanques qu'on retrouve de ci de là dans à peu près tous ses films. Et alors là, tout est réuni en un. C'est d'une richesse visuelle complètement dingue. Et effectivement, cette espèce d'attaque en règle contre le show business XXL que Disney pourrait représenter d'ailleurs. Donc c'est assez drôle qu'ils aient accepté ça. Le film prouve vraiment que la cupidité mène au désastre et comment l'arrogance de ce show business va être finalement battue par les valeurs, la morale d'une petite troupe de saltimbanques qui vont sauver Dumbo. Alors, mon petit regret, c'est que les personnages, ils se comptent sur les doigts d'une main et que justement, cette famille de cirque dont on nous vante les mérites du début à la fin, elle n'existe pas vraiment. Ils servent de décorum. Alors, les costumes sont sublimes, ils sont tous beaux, ça jongle dans les quatre coins de l'image. Néanmoins, ils n'existent pas. Il n'y a vraiment que le père, les deux gamines, la trapéziste et le méchant. Mais sinon, ouais, moi, j'ai été emportée. Évidemment, l'âme d'enfant, tout ce que vous voulez. Et puis, en termes d'effets spéciaux, ce petit Dumbo, je veux dire, la première apparition quand il est maquillé pour arriver sur la piste, le visage blafard avec du rimmel qui coule, ça fend le cœur. Non, c'est merveilleux.
Michel.
C'est un très grand film. C'est-à-dire que, d'abord, Burton a été un des très grands cinéastes de la nouvelle génération à Hollywood. Et c'est vrai qu'avec toute l'admiration que j'avais pour lui, j'étais un peu déçu, même si les films restaient intéressants depuis une quinzaine une dizaine d'années, disons, par tous ses derniers films. Et là, j'ai retrouvé le grand Burton. Alors, c'est vrai que c'est la deuxième fois. Il est né avec Disney. Ses premiers courts-métrages étaient produits par Disney. Il avait fait déjà Alice au Pays des Merveilles, qui était un dessin animé. Il l'a fait en prise de vue réelle. C'est la deuxième fois qu'il prend un classique de l'animation pour en faire un film de prise de vue réelle. Mais avec la numérisation, il retrouve l'artifice aussi. Donc, c'est un mélange de prise de vue réelle et de technique phénoménale. Et c'est vrai que... Peut-être que depuis Fellini, on n'a pas vu un tel imaginaire au cinéma. C'est-à-dire que c'est une splendeur. Et Hitchcock disait « je préfère les tranches de gâteau aux tranches de vie ». Moi, j'aime beaucoup les tranches de vie. J'aime beaucoup Piala. On va en parler d'un film tranche de vie dans cette émission. Mais j'aime aussi les tranches de gâteau. Et c'est un spectacle extraordinaire. Alors, évidemment...
T'as pleuré ?
Je n'ai pas pleuré parce qu'il en faut plus pour me faire pleurer. Il y a des films qui me font pleurer. Ce n'est pas là où j'ai pleuré.
Quoi, un éléphant qui va voir sa maman en prison ? T'arrives à le tenir, toi ?
Mais tu as un grand sentimental, c'est pour ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ça retrouve toute la veine de Édouard aux mains d'argent, de ce personnage isolé avec le personnage de la mère, le rejet, qui veut être aimé. Et en même temps, cette fantaisie visuelle extravagante.
Sophie.
Oui, moi, je n'ai pas pleuré, mais je suis d'accord avec mes camarades. Je trouve que c'est vraiment un beau film et que la critique contre les parcs d'attraction est extrêmement virulente. Il épargne les banquiers, cela dit. Mais enfin, il s'en a la corjoie, il en fait un enfer.
C'est pas un film révolutionnaire contre les parcs d'attractions,
c'est un,
les enfants.
Non seulement contre les parcs d'attractions, mais contre aussi Hollywood. D'ailleurs, c'est très intéressant.
Contre les animaux dans le cirque.
Oui, mais détruit Disneyland.
C'est très intéressant.
Détruit Disneyland. Le nouveau parc est détruit. Il détruit les gens.
Il en fait un enfer. Il met le feu. Il en fait un enfer. Parce que c'est devenu ça. Et en plus, ce que je trouve très intéressant, c'est que son cirque ressemble terriblement à une série de HBO qui était La Caravane de l'étrange, qui se situe exactement dans les années 20, exactement à la même époque. Et cette série-là, n'a fait que deux saisons, faute de rentabilité. Donc on lui a coupé les vivres pour eux. Et donc, très clairement, il se place du côté des artistes, du côté de ce cirque. Ce que je trouve très beau aussi dans le film, à un deuxième degré, parce qu'il y a beaucoup de choses pour les enfants, etc., mais il y a aussi des choses pour les adultes, c'est rétroactivement le regard mélancolique qu'il porte sur le siècle, sur le XXe siècle. Il situe cette histoire au sortir de la Première Guerre mondiale, ce qui n'est pas la date de son écriture ni du dessin animé. Et on a le sentiment qu'il regarde ce siècle qui promettait tant, qui promettait des réparations. La petite fille l'emmène devant la vitrine de Marie Curie pour montrer à son père qu'il va pouvoir récupérer ce bras manquant. Et à la vérité, on sait ce qu'il est advenu d'un siècle qui a peut-être plus fait en destruction qu'en réparation. Et ça, je trouve ça très beau.
Dumbo de Tim Burton, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film ici au théâtre de l'Alliance française ? Non. On passe à un gros succès d'ailleurs aux États-Unis. C'est Boy Erased, le deuxième film après The Gift de l'acteur australien Joe Edgerton, l'adaptation des mémoires de Gerard Conley avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe, et c'est donc l'histoire vraie de Jared Conley, dont le père est un pasteur baptiste ultra-conservateur, le mot est faible d'ailleurs. Lorsque le fils de 19 ans fait son coming out et annonce à ses parents qu'il est homosexuel, il est obligé de suivre une thérapie de conversion, autrement dit des séances de torture mentale pour le forcer à corriger sa prétendue déviance, programme censé le rendre hétérosexuel, qui s'intitule, tenez-vous bien, L'amour en action. Le thérapeute en chef étant Joel Garton lui-même, avec donc Nicole Kidman dans le rôle de la mère, et aussi Xavier Dolan. Donc, je vous le dis, mais pour un tout petit rôle pour les fans, c'est un rôle minuscule. Et à la fin du film, qui fait presque 2 heures, apparaissent les photos des vrais protagonistes. Sophie.
J'ai été très déçue par le film. Je l'ai trouvé terne, je l'ai trouvé formaté, je ne l'ai pas trouvé bon.
Très attendu, surtout.
Très attendu, mais au-delà de ça, j'ai eu trop de musique, trop de ralentis, trop d'allers-retours, trop de... on a l'impression d'être dans une visite de ce stage de reconversion sexuelle, où on nous dit beaucoup de choses, mais on ne nous montre rien de l'intérieur. Enfin, c'est le voyage intérieur qu'accomplit ce jeune homme pour arriver à s'assumer. Au fond, il est montré de manière très extérieure, avec une succession de scènes et d'allers-retours, et encore une fois, de ralentis et de musique. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le syndrome de ces films américains où on prend une très bonne histoire, on prend des bons acteurs, on prend une grande vedette, un peu le syndrome Ben is back, on prend Julia Roberts, une bonne histoire, et puis le même acteur, et Mère Courage, alors là on a Nicole Kidman qui tout à coup retourne son, je sais pas son quoi d'ailleurs, enfin se retourne tout à coup pour aller sauver son fils alors qu'au début elle était consentante, enfin bon, mais ça fait rien, elle a sa scène quoi, et du coup ça donne des films évidemment au cœur des inepties américaines certes, mais au-delà de ça c'est un
c'est
film
pour ça que ça marche je pense d'ailleurs
complètement, ouais mais c'est complètement formaté quoi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Michel ?
Oui, alors toute une première partie, à la limite, on peut accepter. C'est effectivement une critique très justifiée de tous ces camps de rééducation qui sont impressionnants, avec ces évangélistes qui font la base, d'ailleurs, des électorales de Trump. Enfin, c'est ces évangélistes complètement fanatiques qui veulent absolument...
Que Conley avait raconté dans un livre.
Et puis après, c'est la reconversion. Alors là, ça devient ralenti, effet musique plombante. Enfin, je veux dire, tout un côté esthétisant insupportable. Et effectivement, le film n'est pas très intéressant.
Xavier,
autant le bouquin est vraiment intéressant parce que c'est la réflexion. Ah oui, je le trouve.
Il est très puissant.
Il est réédité chez Autrement et il raconte vraiment de l'intérieur.
Pas dans le domaine de la littérature, mais du témoignage.
Du témoignage, et il raconte de l'intérieur comment on vous apprend à vous détester puisque on vous déteste et comment il y résiste avec, en plus, beaucoup d'ouverture d'esprit, avec beaucoup de lucidité. Le film est d'un terne, ils l'ont adapté littéralement, c'est-à-dire que les va-et-vient entre les souvenirs et la conversion, qui fonctionnent dans le bouquin parce qu'elles sont induites justement par le souvenir, par l'émotion, par le côté écrit à la première personne, ne fonctionnent plus là. Je ne sais pas à quelle époque se déroule le film, on le sait au début puisqu'il range un téléphone portable, mais l'esthétique nous ramène dans les années 60, il y a un côté pas assumé. Il a gommé d'ailleurs la responsabilité de la mère, qui a le droit, comme l'a très bien dit Sophie, à sa scène Nicole Kidman, mais qui est beaucoup plus ambiguë dans le livre. Toute l'emprise du père, elle est citée là, mais elle n'est pas racontée comme elle l'est dans le bouquin, quand le père l'emmène en prison, distribuer des M&M's comme ça aux prisonniers qui pourront citer la Bible. Enfin voilà, toute la violence intellectuelle, psychique du père et de la mère, qui est quand même beaucoup plus complice dans le bouquin, elle est passée à la trappe. Là, effectivement, on réhabilite la mère au dernier moment, histoire de faire un vague happy end, mais tout le sujet du bouquin, c'est comment arriver à ne pas se haïr quand autour de vous, on vous dit que vous êtes un monstre, n'est absolument jamais traité. Et pourtant, Lucas Hedges est quand même un acteur vachement intéressant, extrêmement ambigu, qui a une vraie palette.
Manchester by the Sea, il était formidable
absolument, mais qui là n'est pas utilisé.
C'était pas le même film.
Ah, c'était un super film.
Non, c'était pire.
Non, on recommence pas.
Ah, bah si, on recommence.
On avait fait un masque assez
violent. Vous me cherchez.
Charlotte.
Oui, je suis assez d'accord avec mes camarades et c'est vraiment décevant parce que c'est un sujet totalement édifiant, très fort. Il y a encore actuellement énormément d'États aux États-Unis où il y a ces endroits de thérapie de conversion, hein, donc ça existe toujours, des milliers d'adolescents sont forcés d'y aller et certains n'en reviennent pas puisqu'il y a beaucoup
de... Je crois qu'il y en a 77 000, un truc comme ça.
Oui, puis il y en a qui se suicident, hélas, enfin c'est terrible. Donc le sujet est dramatique, il est édifiant et le film est totalement convenu, extrêmement classique. Alors il y a une espèce de sobriété de la mise en scène où on pourrait se dire tiens, il veut éviter le pathos, mais résultat des courses, on n'a aucune émotion. Et c'est quand même fou d'avoir aucune émotion sur un sujet pareil, malgré les comédiens qu'on sent quand même assez investis et qui sauvent un peu ce qui peut l'être du film. Et vous le disiez, ces allers-retours constants de flashbacks pour... essayer de rendre le film un peu moins classique, on va dire tiens, on va faire un peu arty comme ça avec des ralentis et des flashbacks, ça ne fonctionne absolument pas.
Et ça dure 2 heures. Hein.
Donc c'est une grosse déception. Après, pour le public américain, je pense que le film est important. On peut espérer que ça dessille un peu les gens, si tant est qu'il y en a qui croient encore au bénéfice d'endroits pareils, mais il me semble
si
que pour nous...
Si le cinéma avait là-bas ce pouvoir-là,
mais
les choses auraient changé depuis longtemps.
Avec notre regard, en tout cas, ça n'a aucun intérêt.
Moi, je dirais une chose, ça m'a soigné quand même. Hein. Je n'irai plus voir de film avec Nicole Kidman avant très longtemps. Destroyer, il n'y a pas si longtemps.
On n'est jamais allé à l'abri d'une bonne surprise, hein.
Bah, elle la prépare.
Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film de Joe Edgerton? Non. La lutte des classes de Michel Leclerc, le réalisateur du Nom des gens, de Télé Gaucho, avec Leïla Bekti, Édouard Baird et Ramzi Bedia, qui jouait ici très bien d'ailleurs un directeur d'école. Édouard Baird, donc le marquis à jabot de Mademoiselle de Jonquière, pour ceux qui auraient oublié, devient ici Paul, un chanteur batteur punk aux doigts bagousés et imperfecto. Il est marié à Leïla Bekti, qui est, je vous le rappelle aussi quand même, l'entraîneuse paraplégique du Grand Bain, et qui est ici, et Sophia, qui est une avocate au barreau de Paris. Bref, un couple de bobos XXL qui décide de quitter la capitale pour habiter une maison à Bagnolet, plutôt bien d'ailleurs, près de la cité où Sophia a grandi, et choisissent de mettre leur fils Corentin, qui est joué par le petit Tom Lévy, à l'école publique Jean Jaurès, en vertu évidemment des principes de tolérance, de partage, de mixité. Et dans cette école, qui est dirigée donc par Ramzi Bedia, Corentin est malmené, brimé, et Paul et Sophia
vont se demander si, comme leurs voisins, ils doivent déménager leur fils à l'institution catholique Saint-Benoît. C'est donc le dilemme de cette lutte des classes qui commence sous le préau et qui va provoquer une crise conjugale assez forte dans ce couple bien pensant. Vous êtes tous, je crois, d'ailleurs, des enfants plutôt de la laïque et de la républicaine. Oui. Michel me regarde avec un drôle d'œil. Charlotte.
Le sujet est assez fort, il est vraiment d'actualité. Cette fameuse phrase « avant on avait des principes, maintenant on a des enfants ». C'est vrai qu'il me semble que ça peut parler à beaucoup de gens. Je le trouve assez malin, le scénario. Donc c'est une comédie, vous le disiez Jérôme, c'est assez drôle. Ça pose beaucoup de questions, ça ne donne aucune réponse toute faite, manichéenne.
Heureusement,
voilà, toutes les pistes sont un peu évoquées. Mais alors, ça pose tellement de questions que pour moi, ça en pose un peu trop. C'est-à-dire, j'ai l'impression que Michel Leclerc et sa co-scénariste ont voulu un peu cocher...
Qui joue un petit rôle d'ailleurs, de prof dans le...
Oui, de prof. On voulu cocher un peu toutes les sociologies qu'on pouvait trouver à Bagnolet. Donc il y a une espèce de patchwork comme ça, de communauté. Alors il y a le juif qui est complètement paranoïaque et qui veut blinder sa maison de partout. Il y a les femmes voilées, il y a les femmes aussi complètement drapées tout en noir. Enfin, il y a un peu tout.
C'est la réalité.
Oui, d'accord. Et c'est le vivre ensemble. Le film, au début, je trouve, fonctionne très très bien, porté par les comédiens qui sont vifs, c'est bien dialogué, c'est alerte et tout. Et puis, au bout d'un moment, pour moi, ça tournait un petit peu à vide. Je trouve les scènes très téléphonées, on n'a plus beaucoup de surprises. Et un final... Alors qui part en fable, et c'est là où je trouve ça assez émouvant. C'est-à-dire Michel Leclerc, certainement,
ouais, mais ça,
voilà, il y a une bulle d'utopie, il croit encore.
Il faut pas le raconter de toute
manière. Non, je ne la raconterai pas. Mais c'est une fin assez casse-gueule. On y croit ou on n'y croit pas. Moi, je l'ai trouvée assez touchante parce que pendant tout le film, on se dit quelle va être la résolution de ça, et je trouve vraiment très singulier la manière dont il clôt son film. Il a énormément de tendresse pour ses personnages, donc voilà, on y prend beaucoup de plaisir, mais je trouve pas non plus que ce soit en termes de cinéma la comédie de l'année, quoi.
Michel.
Oui, le problème, c'est que c'est vrai que Michel Leclerc, il a, ce talent qui était déjà dans Le Nom des gens et dans les films suivants, c'est-à-dire une façon de un humour qui lui permet de renverser les clichés, de regarder ces gens de gauche qui en fait vont mettre leur enfant à l'école catholique parce que la mixité sociale c'est peut-être idéal, mais en même temps ils veulent pas la vivre. Bon, tout ça est très vrai, mais je dirais que le film est un peu fichu comme l'as de pique, c'est-à-dire c'est pas, du point de vue cinéma, il y a une absence de cinéma terrible. C'est-à-dire on rêverait d'un Mike Lee, on rêverait de Secrets et mensonges.
Vous avez pris aucun plaisir avec ce film.
J'ai pris
plaisir de cinéma.
Je suis en train de dire que j'ai pris du plaisir par le regard qu'il porte. Les comédiens sont remarquables, très bons, c'est très bien joué, mais ça manque un peu de cinéma. Voilà.
Sophie.
Ouais, moi j'aime bien le fait que ce soit un peu foutu comme l'âge des piques. J'aime bien ça, le côté un peu.
Ça fait partie du bordel,
du charme.
Cher d'ailleurs à Leclerc, parce qu'il y a toujours un peu ça.
Oui, mais c'est vrai que.
C'est les gauchos, c'était le cas.
C'est un chef-d'œuvre, mais c'est une comédie qui est à la fois, peut-être pas corrosive, mais assez abrasive, assez incorrecte.
Et puis bien vu.
Il met les pieds dans le plat sur des sujets qu'on ose à peine aborder et qui font débat, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dont on ne débat finalement jamais. On peut leur faire le crédit qu'ils connaissent bien le terrain, puisque avec sa co-scénariste Baya Kasmi, ils ont quand même vécu et traversé ce genre de choses. Et on leur a beaucoup reproché, par exemple, l'accumulation des clichés. Enfin, moi, j'ai lu ici et là des... Or, je trouve, comme tu le dis, Michel, effectivement, qu'ils retournent le cliché. J'aime beaucoup l'idée qu'elle veuille regarder... elle s'est élevée socialement en devenant une brillante avocate alors qu'elle vient de la banlieue. Et pourtant, quand elle retourne dans sa banlieue, elle lève les yeux pour voir d'où elle vient, c'est-à-dire d'en haut. Cette simple petite trouvaille de mise en scène, je trouve que ça ajoute beaucoup de charme au film. Les personnages.
Et puis je trouve qu'Edouard Baird joue très bien le personnage déboussolé dans ses convictions.
Oui, parce que voilà, ce qui est bien, c'est que ces personnages, c'est pas des véhicules sociologiques.
Mais non.
C'est des vrais personnages burlesques, sans arrêt empêchés, entravés, qui n'y arrivent pas, qui se débattent les uns avec leurs beaux principes, les autres avec leurs croyances, les uns avec leurs idéaux qui finalement et leurs mensonges, les autres. Et il va bien falloir trouver le moyen de vivre ensemble. Avec, tu l'as dit, Ramzy, qui est formidable, c'est vrai, en chef de file, en directeur
de l'école. À la fin du film, on a envie de l'embrasser, d'ailleurs.
Et cette école publique qui prend l'eau de tous les côtés, mais qui tient par la bonne volonté de quelques-uns. Oui. Tout ça, c'est quand même...
Elle ne va pas tenir jusqu'au bout.
Non, mais bon, l'idée tient quand même. Et le film est quand même assez réjouissant, ne serait-ce que pour ça. Il réenchante quelque chose qu'on a bien besoin de réenchanter dans notre pauvre société française.
Xavier.
Il est aussi réjouissant que foutraque. Et il est réjouissant parce qu'il est foutraque, justement, absolument, et qu'il l'assume complètement. Et quand Charlotte parle de la fin dont on se dit si elle va tenir, la preuve, elle marche. Donc le film marche obligatoirement. Il y a une construction que je trouve savoureuse. Effectivement, ça va dans tous les sens. C'est pas du cinéma posé, mais c'est du cinéma dans le mouvement de ses personnages. Ça commence d'emblée par Édouard Baird qui refuse la plus-value que son appartement parisien pourrait lui apporter, parce que non, il l'a payé 200 000 euros.
Enfin, il va quand même monter un peu.
Il va monter un tout petit peu, et il va se ridiculiser. Il y a un sens du cut, quand même, il y a un sens de la chute, du gag, il y a un sens des personnages. Ça n'est jamais les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres, avec des différences, effectivement, que l'on nous dit, que l'on nous affirme infranchissables, et qui ne le sont pas. C'est peut-être utopisme, mais c'est bien quelqu'un pense de cette manière-là, et le montre au cinéma. On rit extrêmement souvent. Baya Kassmi s'est offert le rôle de l'institutrice tremblante, avec des formules politiquement correctes, improbables. S'il y a des élèves à arabiter ici, à dominance musulmane, qui ne mangent pas certains aliments à la cantine. Donc, Ramzi est toujours, il y a quelqu'un qui mange du porc! Voilà. Et en même temps, tous ces personnages sont touchants parce que sincères, parce que emportés vraiment par leur sincérité. Même les parents qui vont mettre les enfants à l'école privée, eh ben, on
les comprend
d'une certaine manière. Voilà. Ils sont gênés. Et je trouve que cette générosité avec le monde qu'ils regardent, le monde qu'ils accompagnent, le monde dans lequel ils s'immergent et nous immergent, avec des comédiens formidables.
Le bref clip, c'est un pléonasme d'ailleurs, d'Edouard Baird, batteur-chanteur.
Ah, quand il fait des choses à l'arrière-train du pape, et ça c'est... Et puis il y a une comédienne que j'aime beaucoup, dont vous parlerez peut-être la semaine prochaine quand vous évoquerez la trilogie de la vengeance, c'est Eye Haidara, qui est absolument magnifique en femme voilée et qui apporte vraiment aussi quelque chose de bien supérieur et de bien différent aux clichés que l'on prête généralement aux femmes qui portent un voile.
La lutte des classes, c'est Michel Leclerc. C'est ça l'amour de Claire Burger. C'est son premier film d'ailleurs solo, puisqu'elle avait fait Party Girl, qu'elle avait co-réalisé. Et là, c'est avec Bouly Lanners qui fait d'ailleurs la une ce mois-ci de Positif. Et puis les petites, où on ne les connaît pas encore, mais je les cite, Justine Lacroix et Sarah Enochberg. Ça commence à la manière d'une énième, je dis bien d'une énième comédie sociale. Et au début, franchement, on craint un peu la redite, Mario, petit fonctionnaire de Forbach, en Lorraine. C'est donc Bouly Lanners que sa femme a quitté, élève seule ses deux filles. L'aînée, c'est Nikki, donc la fameuse, désormais Sarah Enochberg, 17 ans, qui est un petit copain. La cadette, Frida, Justine Lacroix, qui est formidable, 14 ans, elle qui est en révolte permanente. Et Mario, bonne patte, il déprime et puis il s'inscrit, évidemment, dans le cours de théâtre amateur qui se trouve dans la salle où son ex est toujours éclairagiste. Et puis, peu à peu, je trouve le film prendre l'ampleur jusqu'au moment où Mario est drogué à son insu. Je ne vous dirai ni comment ni pourquoi. Et là, il y a le début d'un épilogue très, très émouvant avec un Bouly Lanners qui est à la fois, je dirais, masculin et féminin. Notamment quand il se met à la fin dans une scène à oser danser le parc des Prêches-Locages, ça il faut oser. C'est ça l'amour de Claire Burger. Oui, donc c'est d'ailleurs assez culotté. Premier film qui fait la une complète de Positif.
Ben oui, parce que justement je parlais de la tranche de gâteau et la tranche de vie. La tranche de vie, c'est ça. Pour moi, c'est les deux plus beaux films de façon extrêmement différente par rapport à Burton, qui est évidemment dans l'imaginaire. Ici, au contraire, on est dans la tradition Cassavetes-Piala. Et cette jeune femme, elle contourne tous les obstacles. C'est-à-dire que déjà, le titre n'est pas prometteur. C'est ça l'amour, on va dire. Bon, et puis tout fonctionne merveilleusement. C'est remarquablement filmé. Bouly Lanners est remarquable.
Il est
à contre-emploi. À contre-emploi, parce que d'habitude il est dans des films de mecs. Si, il a des rôles toujours un peu de marginal, dans la violence, etc. Et là, il est au contraire dans l'affectivité, avec ses deux filles, dont l'une est d'ailleurs lesbienne, qui a 14-15 ans, qui découvre son homosexualité. Tout est d'une justesse absolument parfaite, d'une grande émotion, sans tomber à aucun moment dans le sentimentalisme. On n'est jamais dans le sentimentalisme, mais on est dans une très forte émotion, et avec un sens de l'image et un sens du cinéma tout à fait remarquable pour cette jeune cinéaste. Donc c'est vrai qu'on a particulièrement apprécié ce film.
Eh bien, vous avez raison, Sophie.
Oui, c'est un très joli film et en même temps, je m'en veux de ne pas l'aimer davantage. Je pense que c'est un film...
Pourquoi tu ne l'aimes pas davantage ?
Il a beaucoup de délicatesse, il a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de choses que j'aime. Tout ce qu'a dit Michel est très juste. Et en même temps, je pense qu'il y a un tel désir chez Claire Burger d'authenticité qu'il y a une profusion d'angles dans le film qui joue un peu contre lui, ça manque un peu d'épure. Quand tu parles de cette scène où enfin arrive... cette scène arrive, enfin, c'est un film qui gagne ses galons.
Absolument.
Et en effet, pour ça, je disais qu'au début, il n'arrive pas à cette scène dont tu parles et qui est un état de grâce absolu et qui, tout à coup, donne une ligne au film. Et tout à coup, il y a une épure qui le caractérise. Parce qu'avant, c'est à la fois un homme en crise, c'est à la fois un homme amoureux qui dit à sa femme de partir, c'est à la fois un petit fonctionnaire de Forbach, c'est à la fois un homme qui aime le théâtre, c'est à la fois un père de deux filles, c'est à la fois la fille qui est lesbienne. Et tout ça, il essaie de le traiter tout bien, de manière authentique et presque au même niveau. Ce qui fait que le film finit, me semble-t-il, par en être affaibli. Mais ce sont des réserves que je fais peut-être un peu comme ça durement. Parce que par ailleurs, j'aime le film et je trouve qu'il aurait gagné vraiment beaucoup plus à aller plus directement sur une seule ligne.
Charlotte.
Ben, non, moi, c'est-à-dire cette petite réserve que j'entends de la part de Sophie, c'est justement ce que je trouve le plus beau et le plus émouvant dans le film, c'est-à-dire toutes ces facettes de cet homme-là, parce qu'on n'est jamais réducteur à un seul rôle, on n'est pas que un père ou on n'est pas que un fonctionnaire à la mairie, quoi. Et donc, du coup, moi, cet homme, il est d'une justesse, d'une délicatesse. C'est vrai que l'expression est très galvaudée quand on dit d'un comédien, voilà, c'est le rôle de sa vie. Et ben là, tant pis, je le dis, jusqu'à présent, et je lui souhaite d'en avoir davantage, mais Bully Lanners, pour moi, c'est le rôle de sa vie. Il est tellement bouleversant à sa place, c'est-à-dire avec ce côté à la fois un peu pâteau, mais sensible, extrêmement délicat, il est, vous le disiez, bouleversant. Après, ce que je trouve très fort dans le film, c'est que souvent au cinéma, enfin notamment dans le cinéma français, on voit beaucoup la bourgeoisie ou les gens dans une extrême précarité qui sont en mode de survie. Et là, non, c'est la classe moyenne. Voilà. Et c'est une classe qu'on voit rarement dans le cinéma français. Après, c'est un film sur le lâcher-prise, sur le désarroi amoureux à tout âge, puisque lui, ce père, essaye de se reconstruire.
Et sur les vertus du théâtre amateur.
Absolument. Et ses filles, elles, s'émancipent et découvrent aussi leur sexualité. Et puis, sur ce sujet qui pourrait être aussi un peu casse-gueule ou galvaudé de l'art pour aider à se reconstruire, elle le fait d'une manière très juste et très fine.
Xavier.
Je suis entièrement d'accord avec Sophie, c'est-à-dire que je vois un film dont les ficelles, les intentions et les meilleurs du monde sont hyper visibles, hyper lisibles. Je trouve qu'effectivement, il n'y a pas un personnage qui ne doive pas raconter quelque chose de Forbach, de la société d'aujourd'hui. L'homosexualité de la gamine, on n'en a pas grand-chose à en faire, surtout qu'elle n'en fait pas grand-chose elle-même.
Non.
Dans le film, il y a un moment où...
C'est
voilà,
pas vraiment c'est juste... un sujet du film, d'ailleurs.
C'est un non-sujet.
Oui, mais c'est un des nombreux non-sujets du film. Il faut toujours que quelqu'un apporte effectivement une représentation sociologique. Alors, heureusement, la mise en scène aère un peu tout ça. Il faut que toutes les scènes se termine sur un conflit, sur une engueulade qui sont souvent très artificiellement amenées et écrites. Et à un moment où il écoute de la musique tout seul dans sa voiture, dans un parking, ça peut être un beau moment. Bah non, il faut qu'il se fasse engueuler et insulter par une camionneuse qu'il traite de PD. Enfin, je veux dire, il y a un moment.
Il la prend pour une prostituée.
Il y a un moment, la seule graduation du film, c'est de gueuler, le clash. Elle déjeune avec leur mère, le clash. Enfin, tout ça. Pour qu'on ait une réconciliation un peu lourde, je suis désolé, mais le Parc Prelio-Cage, le concerto 23 de Mozart, qu'on entend absolument partout, y compris chez Picard. Enfin, il y a un moment où c'est pas possible, quoi. Enfin, tout ça, c'est cliché sur cliché. Non, je suis désolé. Ça voudrait être très aimable, et ça l'est souvent, mais il y a un moment où quand
tu
même pas au détriment
d'une certaine
lucidité critique.
C'est ça l'amour, Claire Burger, pas de réaction, allez, vite, troisième film français de la soirée, c'est Mon Inconnu, qui est le troisième film d'ailleurs de Hugo Gélin, avec François Civil, tiens, il n'y a pas de film sans François Civil pour l'instant je crois, mais aussi Joséphine Japy, Benjamin Laverne de la Comédie Française et Edith Scob. François Civil est donc, je le rappelle, l'oreille d'or du Chant du Loup, qu'aime tant Xavier, mais aussi l'amant 2.0 de Juliette Binoche dans Celle que vous croyez. Eh bien, il est ici Raphaël, un auteur de SF à succès très amoureux de sa femme, Olivia. C'est donc Joséphine Japy qu'il connaît depuis le lycée. Et puis, Olivia qui a sacrifié pour son homme sa prometteuse carrière de pianiste. Jusqu'au matin, il se réveille dans un monde parallèle. Olivia, devenue grande concertiste, ne le connaît plus. Il n'écrit plus de romans, il est prof de français. Et il supplie alors son ami Félix, c'est Benjamin Laverne, de l'aider à retourner dans le monde d'avant et surtout à reconquérir Olivia. Ce qui est incroyable, c'est que cette histoire-là, qui pourrait faire une nouvelle,
Ça dure quasiment 2 heures. 2 heures.
Pas quasiment. Xavier. Vraiment 2 heures.
Ah oui, ça dure 2 heures, puis on les voit, et puis on a l'impression d'être en train de regarder le film sur le banc de montage, et on a envie de dire Hugo Gélin, bon, ça ne sert à rien. Bon, ce travelling, là, tu peux le supprimer. Non, cette séquence-là, vraiment, n'apporte strictement rien à la narration. Là, t'as une incohérence énorme. Bon, alors, je veux bien que, sous prétexte que ce soit une comédie romantique, fantastique, on puisse tout passer. Bon,
enfin, quand même, dont on voit très bien le modèle anglo-saxon, hein.
On voit le modèle, on voit à la fin, au bout de 10 minutes, ce qui nous laisse encore 1h50 à cogiter, quand même. Ce qui est un peu long, hein, de temps en temps, dans le confort d'une salle de cinéma. Alors, effectivement, nous voyons le très joli François Zébile, la très jolie Joséphine Chappie. On aperçoit, parce que vraiment, il faut écarquiller les yeux et ne pas la louper, pas aller faire pipi Edith Scope de temps en temps, quand même, qui a vraiment un rôle.
Elle fait tellement peu de choses que...
Sparadrap, mais voilà, je veux dire qu'il ne sert à rien. Alors, on va aller vite, hein. Comédie, c'est pas drôle. Fantastique, ça ne l'est pas, à aucun point de vue. Et romantique, c'est tellement faisandé que, ben...
Oh.
Voilà.
Mais Xavier, mais t'étais de très mauvais poils ce jour-là.
Non, t'as peut-être vu la version sans la musique, toi. Parce que j'ai oublié de parler de la musique aussi. À chaque fois qu'il ouvre une porte, il y a une musique quand même. Donc j'avais envie qu'il n'ouvre plus les portes. S'il vous plaît.
Tu vas tenter, Charlotte, de défendre ce film ?
Eh bien, je vais tenter. Allez, je relève
mes
manches.
Je dis plus rien.
Mais non. Oui, le défendre, parce que je trouve qu'il y a quand même une ambition à marier la comédie romantique et le cinéma fantastique, et que c'est quand même extrêmement original dans le cinéma français, cette espèce de mix entre Un jour sans fin et Coup de foudre à Notting Hill. Effectivement, le film est trop long, d'accord, mais il reste des scènes quand même, moi je trouve, extrêmement drôles. Et merci Benjamin Laverne, qui a quand même une scène d'impro au téléphone, mais hilarante, mais vraiment hilarante. Et à mon avis, pour ceux qui aimeront le film, c'est pas loin de devenir une scène culte. Il y a quand même ce mélange entre la délicatesse de ces deux comédiens et l'humour potache avec son pote. Et je trouve que ça marche assez bien. C'est bien dialogué. Et moi, je regrette, dans la comédie française, on est quand même très largement dans le haut du panier de ce qu'on voit habituellement.
Sophie.
Je vais donc te surprendre, parce que moi je suis tout à fait d'accord avec Charlotte. J'y suis allée à reculons voir ce film. J'ai détesté les films précédents d'Hugo Gélin. J'avais trouvé ça très mauvais jusqu'à présent, donc j'y suis allée en me disant bon voilà, et j'ai été sous le charme. Je trouve que c'est un film qui est absolument charmant. Comme dit Charlotte, c'est pas tous les jours qu'on a des scénarios français à triple tiroir et à triple résonance comme ça, qui mélangent les failles spatio-temporelles et finalement un conte philosophique. On a droit à un conte philosophique. Oui, c'est un conte philosophique. Il neige et on a une définition de l'amour. L'amour est à la fois un coup de bol et une construction, c'est à la fois un tour de magie et une stratégie. Ça dit beaucoup de choses sur l'amour. Je trouve que François Civil a un potentiel comique extraordinaire, dont je regrette. Je trouve que c'est vraiment un film charmant. Voilà.
Michel.
Je suis un peu.
Oui, mais t'es pas le seul.
Aussi, parce que cette mise en abîme, je la trouve absolument dépourvue de toute originalité. On a vu des films comme La Fête à Henriette, De tête folle. On a vu des films comme avec même le magnifique de Broca, avec qui était un film avec Belmondo.
Qui est sorti la semaine dernière, non?
Il y a 40 ans, il y a 50 ans.
Michel, il y a une mélancolie aussi dans le film.
Non, mais la dernière demi-heure, enfin les grandes scènes d'amour avec le couple reconstitué d'une belle d'une de la guimauve.
Il faut bien que ça se termine comme ça, mais il y a de la mélancolie,
Si on peut vous raconter la fin.
J'ai pas envie de m'attarder sur ce film. Qui m'a vraiment pas du tout troublé en aucune façon, ni passionné, ni ému.
Non, mais c'est peut-être un peu, effectivement, je crois que Xavier a raison, il y a peut-être une guerre des sexes autour de ce film. Peut-être. Hein.
Je sors une banalité abominable de cliché et tu vas dans mon sens.
Mon inconnu, Hugo Gélin, est-ce qu'il y a des réactions? Dans ce...
Ils vont pas aussi.
Non. Ils osent plus là. Synonyme, le troisième film de l'Israélien Nadav Lapid, après Le Policier et l'Institutrice, Ours d'or à la dernière Berlinade, avec Tom Mercier, Quentin Dolmer, Louise Chevillotte, Yoav, c'est donc Tom Mercier, ex-soldat de Tzahal, est écœuré par son pays, Israël, qu'il juge, là je le cite, répugnant, fétide, abominable, obscène, hideux, et il ne veut plus parler l'hébreu. Il vient se réfugier à Paris, où il est à poil, au sens propre, et il trouve de l'aide et des habits chez un couple bobo, joué par Quentin Dolmer et Louise Chevillotte,
Il s'exprime avec une gestuelle très expressive. Il est toujours plongé dans le dictionnaire de poche bourré de synonymes, d'où le titre. Et il est suivi par une caméra qui ne le lâche pas. Alors on voit le modèle Nouvelle Vague, évidemment, de ce film, qui sur la question, en tout cas israélienne, d'ailleurs sans épargner la France, tient du pamphlet, un pamphlet signé donc par ce cinéaste qui est venu se réfugier en France provisoirement dans les années 90. Ça dure 2h03 et cet ours d'or reste pour moi un grand mystère. Michel.
D'abord, je dois dire que j'avais beaucoup admiré les deux premiers films de Lapide, Le policier et l'institutrice, qui étaient des films très maîtrisés, très profonds, très complexes sur la société israélienne, avec un regard critique qui est tout à fait justifié. Et je me sens un peu tout seul dans la critique française aujourd'hui, puisque le film suscite un délire critique comme
je l'ai
rarement
rencontré. Tu n'es pas le seul, je te rassure.
Avec l'ours d'or à Berlin en plus. C'est un film qui me gêne sur deux points. D'abord, je trouve que esthétiquement, stylistiquement, c'est une sorte de produit sous-godardien, 40 ans après Pierrot le Fou. On a vu ça depuis... Godard l'avait fait magnifiquement. Là, on a affaire à un succès d'année, un épat, même pas bourgeois, parce que les bourgeois sont plus épatés aujourd'hui. Il y a que les petits bourgeois, peut-être, qui sont encore épatés. Et les critiques de cinéma, évidemment.
Donc, je suis bien d'accord avec toi.
Il y a des phrases qui me gênent beaucoup dans ce film. Par exemple, quand il déclare « Être israélien, c'est comme avoir une tumeur qui doit être extirpée ». C'est un peu ce que les ayatollahs en Iran proposent, puisqu'ils veulent la disparition de 6 millions de personnes. C'est ce qu'ils ont promis à Israël, la destruction totale. Donc ça me gêne qu'il y ait des sentences pareilles. On me dit, mais le metteur en scène est juif, d'accord, mais la haine de soi existe autant chez les juifs que chez les goyes. Et il y a des provocations, par exemple, chez le photographe porno, on lui demande de s'enfoncer un doigt dans l'anus, et en même temps, il jouit en hébreu, alors qu'il avait décidé de ne plus parler l'hébreu, tellement que c'était une langue épouvantable.
Ça, c'est léger comme scène.
Moi, je suis contre la politique israélienne. Je trouve qu'elle est épouvantable, Netanyahou aussi. Mais par exemple, l'Italie a un gouvernement néo-fasciste. Je n'irai jamais dire qu'être italien, c'est comme avoir une tumeur qui doit être extirpée. Je ne dirai jamais d'aucun peuple, d'aucune personne qui appartient à un peuple. Donc ça me gêne beaucoup. Et je suis un peu gêné qu'il y ait un décalage entre les pages politiques dans les journaux qui montrent que l'antisémitisme aujourd'hui s'est réfugié dans l'antisionisme. C'est un fait. Plus personne n'ose dire les juifs, c'est ceci, cela, comme dans les années 30. Donc on se réfugie dans l'antisionisme. Et je trouve regrettable qu'il n'y ait aucune mise en perspective dans la critique aujourd'hui de ce film en France, parce que ce film pose des vrais problèmes.
Xavier.
Je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, c'est un des grands films de cette rentrée. Alors déjà, on va reprendre la phrase, c'est « être israélien est une tumeur ». C'est pas « Israël est une tumeur », déjà, Michel. Donc tu vois, il y a quand même une vraie différence sémantique. C'est une nationalité et pas un pays. Donc il n'y a aucun appel à la destruction d'Israël dans cette phrase que toute personne venant d'un pays est en droit de pouvoir prononcer sans que ce soit un appel à l'éradication du pays.
Mais bien sûr
que
non.
Mais non, Michel, mais
c'est la haine.
Tu veux le politiser, le film, alors qu'il est sur un registre certes engagé, certes militant, mais aussi poétique. Je suis désolé, c'est un film d'une inventivité qui a des trouvailles de cinéma. Oui, effectivement, il est sous influence de Godard. Et alors? So what? On a quand même le droit aussi de reprendre quelques mètres et pour reproposer quelque chose. Je trouve que c'est un film qui a un mouvement. Je ne suis pas d'accord avec tout esthétiquement. Tu as raison, la scène avec le doigt dans le cul n'était pas nécessaire et utile. Même si en termes d'incandescence, je préfère celle de Tom Mercier à celle de François Civil. Mais ça, c'est pour Sophie Avon.
Oh,
chacun son truc.
Ah ben non, sois un peu délicat.
Mais il y a un vrai personnage, il y a un vrai trouble. Il y a des relations interdites qui sont absolument magnifiques entre Tom Mercier et le jeune Quentin Dolmer qui apporte quand même beaucoup d'ambiguïté au film sur cette homosexualité interdite, latente, désirée, déniée, refusée. Faut quand même dire que le film a été écrit, co-scénarisé par le père de Nadav Lapide et au montage c'est sa maman. Donc c'est aussi un film de famille, donc c'est aussi un film de rapport très conflictuel avec un pays. On nous rappelle que le grand-père, le personnage, en tout cas du grand-père, dans ce film-là, avait été soi-disant un terroriste contre l'Angleterre. Donc la notion de destruction, de terrorisme, de traître, de partisan, elle est quand même extrêmement malmenée dans le Moyen-Orient depuis quelques temps et elle mérite autre chose que la sanction de Michel Simon. Je trouve qu'il y a une beauté esthétique et formelle dans le film. Il y a des idées quand ils jouent avec la mitraillette et qu'il faut reconnaître la chanson qu'ils interprètent en abattant une cible en carton. Il y a quand même
Tu l'as défendu, Xavier.
Non, je termine quand sa mère l'a giflé le jour de la cérémonie quand il était militaire. Ce qu'il dit avoir aimé et qu'elle me dit, elle m'a giflé pour me sauver de la maladie de ce pays.
Sophie.
Xavier parle très bien du film, mais j'ai détesté ce film. Je trouve
que... tu m'avais dit que tu avais des réserves et que tu aimais.
Non, mais je trouve en plus que pour un film autobiographique, puisqu'il raconte l'histoire qu'en effet, puisqu'il était, il a vécu ça, il s'est détourné d'Israël, il est venu vivre à Paris, apprendre la langue parfaitement, etc. Je trouve que ça manque singulièrement d'authenticité, ça manque singulièrement d'affect.
Et de modestie.
De modestie, bien sûr, de, bon, tout ce que vous avez dit sur la modestie, la non-modestie, l'arrogance, etc. Enfin, ce que Michel a dit, c'est juste. Mais c'est surtout le manque de sentiments, le manque d'affect qui me sidère. Et ce qui me sidère aussi, c'est que je trouve que c'est un film extrêmement théorique. Alors que Dieu sait qu'il y a un corps d'acteur, hein, et qu'il investit ce corps d'acteur, hein. Il le surinvestit de manière narcissique.
D'accord.
De manière extrêmement narcissique. Il le métaphorise sur tous les plans. Enfin, je veux dire, il y a des milliards de métaphores derrière ce corps qu'il met à poil et qu'il montre et qu'il remonte et qu'il remonte. Et pourtant, le film est extrêmement théorique. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de sursignifiant dans le film qui me gêne. Il y a quelque chose en plus de vociférant. Moi, on m'assène des choses, on ne me dit rien. Et je trouve que finalement, tout ça, à mon sens, relève plus de la posture et du désir de se faire remarquer.
D'où
je crains
que
là, ce soit une posture un peu snob
aussi,
et à la fois assez naïve, finalement.
Et je pense que tu donnes un peu l'explication de l'ours d'or, quoi.
Bah alors, oui, Charles, c'est un bon film, c'est normal. Hein.
Non, mais moi, je suis exactement comme Sophie, c'est-à-dire qu'il y a un truc de posture, de théorie, de dispositif qui est assez gênant. Et pourtant, je dis ça alors que je trouve que peut-être les cinq premières minutes du film, il y a quand même une puissance de mise en scène sur la scène d'ouverture dans cet appartement qui instaure un climat d'étrangeté, c'est très mystérieux. Donc, c'est pour moi une des plus belles ouvertures de film que j'ai vues depuis longtemps. Sauf que petit à petit, tout est totalement désincarné, tout est à distance, tout sonne faux, c'est-à-dire qu'à l'oreille, il y a quand même un peu ce problème quand un réalisateur étranger dirige des comédiens français, c'est pas toujours très juste, et là, c'est tellement littéraire ce qui fait dire à ce couple incarné par Quentin Dolmer et Louise Chevillotte, qui sont presque une espèce de parodie de jeunes couples bourgeois de films d'auteur. C'est pas pour rien qu'il les a pris, on les a vus chez Desplechin ou chez Garrel, enfin tout ça est très signifiant, mais personne dans la vie ne parle comme ça, donc on a l'impression de répliques extrêmement théâtralisées avec un sous-texte qu'on saisit un coup sur deux. Et du coup, à cette puissance de mise en scène, pour moi, c'est opposé une recherche constante de « mais qu'est-ce qu'il veut me dire ?» Je me sentais impuissante.
C'est relativement clair.
Mais oui, mais il y en a tellement que tout est symbolisé partout dans chaque séquence. Et alors, autant certaines séquences sont assez fascinantes, autant d'autres, comme le fameux casting porno ou d'autres, tombent complètement à plat, on n'y croit pas et on ne voit que la prétention
du metteur en scène. La scène de fin est magnifique, enfin.
Synonyme, c'est donc le film de Nadav.
Oui, la scène de fin est.
Voilà, dis-le.
La scène d'ouverture, la scène de fin, mais ça dure 2 heures.
Et plein au milieu, c'est un grand film.
J'avais inscrit un film, on aura à peine le temps de l'évoquer, c'était Tel Aviv on Fire, autre film israélien la soirée d'ailleurs, de l'arabe israélien installé aux États-Unis, Sameh Zoabi, un film dont je trouve au moins l'idée assez savoureuse. Salam, c'est donc K.S. Nachef, palestinien de 30 ans qui vit à Jérusalem et est engagé comme stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire. Tous les matins, il emprunte le même checkpoint pour aller travailler à Ramallah. Et un jour, il se fait arrêter par un officier israélien, tellement fan de la série, que Salam prétend en être le scénariste. Et chaque jour, non seulement l'officier va exiger des changements dans le scénario, mais les acteurs vont demander aussi que Salam gonfle leur rôle, tandis que les épouses veulent savoir comment le soap va se terminer. Moi, j'aurais aimé que la réalisation soit à la hauteur de l'idée, au moins aussi futée que l'idée. C'est plus court que Synonyme, hein, 1h35. Mais vous me dites juste ce que vous en pensez, Michel.
Ben justement, je trouve que c'est une très bonne réponse d'un arabe israélien qui fait un film, je suis d'accord avec toi, le scénario est très intelligent, c'est un film sur le dialogue possible entre justement une israélienne et un arabe israélien. Donc c'est un film plein de trouvailles, de mise en abîme qui est là vraiment réussi, plus que dans Mon Inconnu. Il y a aussi cette mise en abîme. Mais effectivement, le film n'est pas au niveau de son scénario et de son idée. Mais cela dit, c'est un divertissement tout à fait agréable.
Charlotte ?
C'est cocasse, c'est léger, c'est rigolo. Il n'y a pas beaucoup de cinéma dedans. Et c'est dommage parce qu'effectivement...
Et l'idée mériterait plus de cinéma, je trouve.
L'idée était vraiment chouette, quoi.
Xavier ?
Oui, mais il y a un vrai scénario qui se réinvente, qui tient à la distance, qui va jusqu'au bout de ses quiproquos, qui a une fin... qu'on ne voit pas nécessairement venir avec des personnages qui sont écrits. Je trouve que traiter le conflit à travers à la fois la réalité du conflit, le checkpoint, et puis cette version fantasmée du soap que tout le monde regarde et dont tout le monde s'accapare à la fois le gentil, le méchant, ça change évidemment de part et d'autre de cette frontière. Je trouve que c'est un film sur la frontière. Alors effectivement, c'est pas grandement mis en scène.
Les comédiens sont bien en plus.
Mais les comédiens sont bien, le scénario est alerte.
Et ça manque un peu de rythme.
Non, je suis désolé, ça tient son rythme jusqu'au bout. C'est pas flamboyant en termes de mise en scène, mais c'est efficace et tant mieux.
Sophie.
D'accord entièrement avec Xavier, c'est un, moi j'ai trouvé un
non film, mais je te parle plus de toute façon depuis le coup de
téléphone. C'est peu importe, je suis d'accord avec toi, c'est un film super.
Ah en plus c'est rancunier en plus.
Ah ouais.
Et en plus c'est rancunier.
Bon, si j'avais un peu pour savoir si elle était de mon côté, elle me dit non, j'ai une réserve et tout.
Non mais sérieusement, tu l'as appelé avant pour savoir ce qu'elle allait dire de synonyme au masque.
Bah je voulais pas être tout seul et du coup je suis tout seul.
Tu vois à quoi ça sert.
Mais c'est incroyable, donc t'es en train de
ne pas acheter, je ne vais pas vous faire quoi que ce soit.
Dehors du masque, tu as tout le monde avec toi, donc te plains pas.
Et ça vous intéresse pas du tout ce que je vais dire.
Alors voilà, Tel Aviv on Fire.
Non parce que
vu par Sophie avant.
Ce film génial, je trouve.
Génial.
Oui, je le trouve super. Je trouve que ce personnage qui est presque flegmatique comme ça, qui est une coquille vide, où tout le monde va greffer son propre désir, je trouve que c'est une idée géniale. Et finalement, en plus,
mais tu m'avais pas dit au téléphone que t'allais dire qu'elle est géniale.
À coup d'acrobatie et d'équilibre, c'est un vrai personnage burlesque, vide en apparence, mais qui à coup d'acrobatie et d'équilibre incroyable va finalement faire triompher sa propre vérité. C'est un film sur le désir, comme l'a dit Xavier, c'est un film sur la frontière terrienne, mais aussi la frontière qui est entre la réelle, enfin la porosité de la frontière qui est entre
le
réel.
Mais tout ça est vrai, mais ça manque un peu de cinéma.
Oui, mais si vous voulez, mais ce qui est plus intéressant, c'est que c'est nos imaginaires, nos fantasmes qui accouchent de la réalité, qui c'est la fiction qui invente le réel. C'est génial. C'est ça qui dit le film.
Tel Aviv on Fire, c'est donc signé Sameh Zoabi. Voilà, le temps est venu des conseils et on va commencer avec Sophie.
Très rapidement, Los Silencios de Béatrice Seigné, c'est une réalisatrice brésilienne, mais c'est un film qui porte sur la Colombie. Et c'est une famille, enfin une mère et ses deux enfants qui viennent se réfugier sur une île aux confins de trois pays en Amazonie, qui fuit la guerre de Colombie, celle qui s'est arrêtée il y a 2 ans. Et c'est un film qui mêle, enfin très réalisme magique de ce continent-là. Hein, ça mêle un réalisme social et en même temps une sorte de les esprits veillent. C'est très 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 beau. Et rapidement, mais je donnerai la parole à Xavier pour ça. Le
bah
film.
Si, comment ça, tu donnes la parole.
Non, mais c'est parce qu'on a le même conseil en deuxième position.
Ah, vous êtes vraiment appelé alors.
Ils sont vraiment concertés.
Xavier,
hein.
Tu vois. Alors donc, je donne la parole à Xavier.
Non, parce que je vais la donner avant à Michel.
Ah, d'accord. Alors, je recommande un film qui sort que dans 3 jours, qui s'appelle Ray et Liz de Richard Bellingham, qui est un photographe, et je trouve que c'est un film absolument remarquable.
Michel. Et je suis entièrement d'accord.
Alors, oui, je voudrais parler d'un coffret, parce qu'aujourd'hui, il y a en particulier deux compagnies qui s'appellent Wildside et Carlotta, qui font des sorties de DVD qui sont un peu comme la Pléiade, c'est-à-dire avec énormément de documents, d'interviews, de livres même. Et là, il y a une édition formidable chez Wildside, des Formants de la nuit de Jules Dassin, dans 2 versions, la version anglaise et la version américaine qui sont différentes. C'est le chef-d'œuvre de Dassin, d'ailleurs il y a 1 heure d'entretien avec lui. C'est avec Jean Tierney et Richard Widmark, ça se passe à Londres, dans le milieu de la lutte gréco-romaine. C'est un film noir, un chef-d'œuvre du cinéma noir, avec un noir et blanc extraordinaire. Et vraiment, je recommande à tout le monde, beaucoup de nos auditeurs en connaissent le film, mais on le découvre grâce à tout cet appareil critique, encore une fois digne des grandes éditions en littérature.
Mon conseil très rapidement, c'est le numéro de Positif de ce mois-ci, pas simplement pour ce que vous faites très bien évidemment sur Claire Burget, mais j'ai été étonné par l'excellent dossier Varda, Agnès Varda, que vous avez donc en fait réalisé avant de savoir qu'elle allait disparaître.
Et elle avait dit, je ne donnerai plus, j'aime beaucoup Positif.
Et elle donne son dernier entretien.
Oui. Depuis les débuts, mais je ne fais plus l'entretien, je n'en donnerai plus jamais. Alors on a dit, bon, on va faire un entretien avec Rosalie, ta fille, parce que elle va nous parler comment vous construisez vos films, comment vous produisez, etc. Et Agnès Varda, entendant cette conversation, a descendu, elle chez elle, et elle a participé
et
à l'entretien.
Donc c'est son magnifique. Dernier entretien. Et c'est vrai que de lire ça, après la disparition de cette femme qu'on aimait tant, c'est vrai que ça fait un choc, et le numéro est d'autant plus précieux de Positif de ce mois-ci, Varda par Agnès. Charlotte.
Eh bien, pour continuer à rendre hommage à la fée clochette de la nouvelle vague, le MK2 Beaubourg bouscule sa programmation et donc rend hommage à Agnès Varda jusqu'au 9 avril. Et il faut s'y précipiter parce qu'en dehors du plaisir de découvrir ou redécouvrir ses films sur grand écran, on peut y voir justement Varda par Agnès, cette grande conversation autobiographique avec des anecdotes, des petites séquences insolites. On peut le voir sur grand écran. Et si on ne peut pas se déplacer, c'est toujours disponible sur Arte.
Xavier.
Moi, mon conseil, c'est un film d'animation, Tito et les oiseaux, de Gustavo Steinberg. C'est un film brésilien, c'est juste une merveille absolue. C'est une dystopie fantastique pour les enfants, mais qui dit l'état actuel du Brésil avec le Bolsonaro, le président, qui dit la dictature avec un style flamboyant, fait de traits de gouache, comme ça, c'est à la fois inquiétant, perturbant, malaisant. Et en même temps, les enfants adorent le film parce qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant et de très politique qui les concerne et qui les implique. Et effectivement, je renchéris sur le conseil de Sophie Avon. On a bien fait de s'appeler Ray and Liz de Richard Billingham, qui est un portrait effectivement de la middle class. Si, si, c'est absolument magnifique. Ne croyez pas les gestes de dénégation de Jérôme Garcin. C'est absolument superbe sur la classe ouvrière britannique.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup. Sophie Avon, Charlotte Lipinska, Michel Simon et Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. À l'Alliance française, à la technique, il y avait ce soir, et je les remercie, Frédéric Changenet, Julien Bourdet et Nadège Antonini. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est le jeudi 18 avril au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de théâtre, et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.